Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes mercredi 27 octobre 2021. C'est le moment de suivre le journal sur la radio Nzamba Gate Kakawe. D'abord les titres. Des centaines de personnes sont dans le désarroi suite à des pluies torrentielles qui ont emporté maisons et champs depuis le début de la semaine dans les provinces de Makamba et Rutana. Les sinistrés demandent l'intervention de l'État. La population ne montre qu'un engouement pour la vaccination contre le Covid-19 lancée la semaine dernière. En cause, l'absence de sensibilisation par les autorités qui, au contraire, se distinguent dans la désinformation sur la même vaccination. Des habitants de Boutelele en mairie de Bujumbura ne savent plus à quel saint se vouer. Leurs champs ont été méchamment détruits par des immondeurs courés et personne ne veut recevoir leurs plaintes. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Des pluies torrentielles mêlées de vents violents se sont abattues depuis le début de la semaine dans les provinces de Makamba et Rutana. Deux personnes ont été tuées, plus de 100 maisons et de nombreuses écoles ont également été détruites et des champs emportés. Les victimes sinistrées demandent d'être assistées. Blaise Nijimbere.
Dans la province de Makamba, deux personnes sont mortes la nuit du lundi à mardi lors des pluies mêlées du vent violent. Les victimes sont un enfant et sa grand-mère qui ont été victimes d'écroulements de leur maison. Les faits se sont passés sur la colline Gahama de la commune Mabanda, sur la colline frontalière de Gahama, précisément sur la colline Mbizi de la commune Kibago. Plus d'une quarantaine de maisons ont complètement été détruites, plusieurs autres semi-détruites. Plusieurs hectares de champs de manaré, maïs et manioc ont été endommagés par la grêle qui a passé toute la journée étalée sur les deux collines, selon une source administrative locale. Dans la province de Rutana, en commune Migakayove, plus de 40 maisons, 3 églises et une école fondamentale ont été détruites des pluies mêlées du vent violent la nuit du mardi à mercredi. Ces pluies se sont abattues sur les collines Ngarama, Lolero, Kayove et Butamia, comme l'indiquent des sources locales. Signalons que 6 personnes ont déjà été tuées pendant des pluies torrentielles mêlées du vent violent et plusieurs maisons et écoles détruites depuis le début de cette saison de pluie.
Wa Kanyoni Prosper a été trouvé mort le matin de ce lundi à l'hôtel Nobel du chef-lieu de la province Mwaro. Prosper, 38 ans, était le gérant de cet établissement et fils du propriétaire Wa Kanyoni Célestin de la colline Nyamiyaga, commune Rusaka en province Mwaro. Selon des témoins sur place, le défunt a commencé à vomir du sang dans sa chambre. Il s'était ensuite dirigé vers la salle de bain où son corps a été retrouvé inerte. Ses collègues précisent que l'homme qui dormait seul avait quitté le comptoir de l'hôtel vers 22h et s'était directement rendu dans sa chambre. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital Kibumbu pour expertise après le constat de l'officier de police judiciaire. Cela fait près d'un mois qu'un jeune homme qui venait de terminer ses études secondaires est incarcéré. Il avait d'abord été enlevé par le responsable du service des renseignements à Mwaro avec son père au début de ce mois d'octobre. C'était quelques jours après un autre enlèvement par le même responsable des renseignements, celui d'un de ses cousins, doyen des élèves du lycée Mwaro et son père également. Mais les trois autres ont finalement été relâchés vendredi de la semaine dernière. Il est poursuivi pour détention illégale d'armes. Sa famille clame son innocence et demande qu'il soit libéré pour qu'il commence ses études universitaires. Le point avec Vanessa.
L'élève Artidi Langabiye est originaire de la commune Buzilachanda de la commune Ndava dans la province de Mwaro, a été arrêté par le responsable du service des renseignements. La famille n'a pas de trace de sa détention jusqu'aujourd'hui. À la deuxième semaine de son arrestation, Artidi Langabiye a été ramené chez lui pour une fouille perquisition simulée selon sa famille et qui a vu des chargeurs de cartouches d'un fusil présentés comme éléments à charge à leur fils.
À la deuxième semaine, Aristide a été ramené à la maison à la tombée du soir. Mais quand il l'avait arrêté samedi dernier, il n'avait rien signalé comme arme découverte. Mais paradoxalement, c'est à la deuxième semaine, ils ont démontré à sa mère les éléments constituant ses charges. Pour cet enfant, ces histoires d'armes sont étranges.
Artie Dilangawi a été arrêté alors qu'il se préparait pour entamer l'université. Les voisins et la famille demandent que le sien soit libéré en fait de rattraper l'académique qui vient de commencer. Les voisins et la famille restent convaincus que son arrestation résulte d'un pur montage.
La famille demande avec insistance que cet élève soit libéré pour débuter ses études universitaires. Il est emprisonné pour rien. L'année académique a commencé ce 25 octobre. Nous demandons qu'il soit libéré vraiment pour poursuivre ses études.
Rappelons que Arsène Dilangabié a été arrêté suivant les autres membres de sa famille, dont son père, son oncle et son cousin, ce dernier représentant les élèves du lycée de Ngaro. Les deux parents sont des anciens militaires en retraite. Eux ont été libérés vendredi passé. Ils étaient incarcérés dans les cachots du service des renseignements, selon notre source en Ngaro.
Les assassinats et les enlèvements qui s'observent actuellement au Burundi ne peuvent étonner personne, car c'est devenu le mode opératoire du CNDD-FDD depuis 2005 et même avant, quand il était encore en maquis. Le parti au pouvoir n'a en effet jamais cessé de tuer les opposants et même certains de ses membres les plus influents par crainte de révélation. C'est l'avis de Frédéric Banvugimvila, ancien vice-président de la République du Burundi et actuel président de la plateforme de l'opposition CFOR Arusha. Il le dit au moment où la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans tout le pays. Il pointe du doigt les jeunes Imbonerakure et les forces de l'ordre. Écoutez-le.
Dès le début du régime CNDD-FDD en 2006, avec les massacres des 40 prisonniers au camp Mukoni et l'implication du colonel Evangeli Nahama qui a été exfiltré par le chef de l'État pour des raisons qui ne tenaient pas debout. Et puis, souvenez-vous des personnes exécutées à Gatumba, des personnes, des sœurs de Kamenge, les volontaires de Kiremba, et bien d'autres qui ont été tués à gauche à droite et qui continuent à être tués parce que la fois passée, il nous a été dit que depuis que Ndayishimiye est au pouvoir, il y a plus de 500 personnes qui ont été tuées. Est-ce que c'est peut-être l'essence même du CNDD-FDD? Parce que quand on discute avec les gens qui étaient dans la brousse, ils se comportaient ainsi pour rien, tu étais tué. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui les a accueillis, a dit, voilà, si c'est vous qui vous comportez comme ça, et que c'est vous à qui on va confier le pays, adieu le Burundi. La personne est toujours en vie. Et puis les gens qui sont tués, ils sont dans quelle catégorie? On constate que ce sont soit des gens de ces partis, soit des gens de telle ethnie qui n'est pas, peut-être qui a des problèmes avec le parti au pouvoir, je ne sais pas. Même des militaires du CNDD-FDD et qui sont peut-être accusés de ceci ou de cela. Souvenez-vous de Madame Afsamo aussi, et du commerçant de Makamba qui a été et qui ont été exécutés comme cela. Les gens qui sont soupçonnés aussi, ils sont dans différentes catégories. À la base, il y a les gens du CNDD-FDD, qui les militants là de la base, qui sont les Imbonerakure. Alors, la deuxième catégorie, ce sont certains policiers qui, pour rien, tuent des personnes gratuitement comme cela. Alors, l'autre catégorie, ce sont des militaires. Quelquefois, vous avez appris qu'il y avait des militaires impliqués dans certaines tueries. Qui doit arrêter ça? C'est le chef de l'État. Il n'y a pas longtemps qu'il a dit, voilà, mes amis, je vous demande de tout faire, de tout commettre comme crime, mais sauf tuer quelqu'un. Parce que la personne n'est pas la créature d'un homme, c'est la créature de Dieu.
Inzamba.
Poursuivons ce journal avec la santé. À peine 400 personnes se sont fait vacciner contre le Covid-19 depuis le début la semaine dernière de la campagne de vaccination. C'est un constat fait dans 3 centres de vaccination installés à mairie de Bujumbura. Il s'agit en majorité de ceux qui s'apprêtent à voyager qui se feraient vacciner. Reportage Joséphine Jones-Nzimana.
Selon les informations sur place, les gens qui viennent se faire vacciner viennent en compte-gouttes car, disent-elles, pas d'urgence quand on n'a pas de voyage. Toutefois, ils indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne donne pas de la lumière sur cette vaccination. Ces gens ajoutent que les hautes autorités du pays auraient été vaccinées ailleurs. D'autres, qui craignent d'être mal vus par les autorités, vont se faire vacciner dans les pays voisins, comme le Rwanda ou l'Ouganda. Les moins nantis vont en Tanzanie en passant par Kovero, où un centre de vaccination a été installé à 3 km de la frontière burundaise, continuent les mêmes sources. Un habitant de la capitale économique rencontré après avoir été vacciné, mais qui n'a pas voulu révéler son nom, a fait savoir qu'il ne comprend pas comment un tel vaccin qui hante le monde commence à être administré sans qu'il y ait un lancement officiel. Une autre inquiétude qu'il soulève est que même le personnel soignant ne se présente pas à son centre pour se faire vacciner. Vous saurez que les premières 500 000 doses de vaccination ont été reçues par le gouvernement du Burundi lundi de la semaine dernière et ces doses avaient été données par la Chine.
Le gouvernement devrait mener des campagnes de sensibilisation des citoyens pour s'assurer une meilleure couverture dans la lutte contre le Covid-19 ont été validées par l'Organisation mondiale de la santé. L'appel est de Komko Nakuze, expert épidémiologiste. Concernant les craintes des vaccins de la part des autorités burundaises, Komko Nakuze suggère au ministère de la Santé d'impliquer les experts de son ministère pour qu'ils fassent leurs propres recherches sur les vaccins afin de convaincre les responsables du pays à changer d'avis. Voici comme qu'on a causé.
Il y a certains vaccins, environ 7, qui sont déjà validés par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça veut dire qu'il y a un groupe d'experts qui travaillent en étroite collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins. Et puis là, il n'y a pas de doute du tout, parce que je peux vous dire que les techniques d'aujourd'hui sont très évoluées. Il y a la haute technologie pour fabriquer les vaccins. Et cela, normalement, dans 3 étapes. D'abord, chercher à ce que son vaccin a une spécificité acceptable, une sensibilité ou une sélectivité acceptable par l'Agence de régulation des médicaments au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis aussi, que son vaccin soit anodin, que ça soit au moment de l'administration ou pendant tout au long de la vie de la personne qui a reçu son vaccin. Donc, c'est-à-dire, l'innocuité est une composante essentielle pour vérifier, évidemment, que le vaccin peut être administré à une personne. Parmi ces 7 vaccins qui sont déjà disponibles et qui sont validés par l'Organisation de la Santé, ils ont été testés, vérifiés, au moins sur 30 à 40 000 personnes. Et là, on a vu que ce vaccin n'a pas de problème, que ce soit le problème média ou le problème dans la vie future de la personne qui l'a reçu. On a vu aussi son expérience. Le vaccin a en plus, dans les mesures de prévention de la COVID-19, et on l'a vu surtout pour les sujets âgés, les sujets atteints de maladies chroniques, les sujets immunodéprimés. On voit moins de cas de mortalité et de morbidité parmi ces groupes. Il faut savoir aussi que le vaccin ne protège pas 100%. Si un vaccin dépasse 90% jusqu'à 95%, ce vaccin est accepté par l'Organisation mondiale de la santé à être administré au public. Donc, le gouvernement burundais devrait envoyer ses experts à travers le ministère de la Santé publique au niveau des institutions qui fabriquent ces vaccins, de regarder, de faire une évaluation des risques liés à ces vaccins et retourner, donner un rapport au ministère de la Santé et au gouvernement, quitte à ce que le gouvernement soit cohérent et donne un seul message à la population, parce que c'est le gouvernement qui a le devoir et l'obligation de protéger sa population face à l'épidémie.
La désinformation orchestrée par les autorités burundaises sur la vaccination engendre la confusion au sein de la population. C'est le regret exprimé par Gabriel Baglo, ancien directeur du bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes. Il le dit à la suite des propos du Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni, qui a dit que le vaccin est dangereux, voire mortel. Pour lui, la preuve en est que les Burundais montrent un désintérêt pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a été lancée il y a une dizaine de jours. Baglo regrette que les médias opérant au Burundi ne contribuent pas dans la campagne de sensibilisation pour la vaccination. On l'écoute.
Décevant que les médias ne sont pas vraiment impliqués dans la campagne pour la lutte contre la Covid et surtout la campagne de vaccination qui a commencé le 18 octobre dernier. On observe que les médias sont très, très réservés par rapport à l'information sur la vaccination. Cela peut avoir une conséquence néfaste, c'est que la population ne soit pas vraiment motivée pour aller se faire vacciner. Et il nous a été même rapporté que depuis que la vaccination a commencé il y a quelques jours, seuls ceux qui doivent voyager ou ceux qui voyagent vont se faire vacciner. À côté de cela, il faut quand même aussi noter que les autorités elles-mêmes ont des doutes par rapport à la qualité du vaccin. Parce qu'il se dit aussi, dans les milieux officiels, que le vaccin n'a pas suivi les expérimentations nécessaires. Donc, il y a ce genre de rumeurs qui continuent de circuler, et ce qui fait que, véritablement, les médias n'ont pas été très impliqués dans la campagne contre la vaccination. Et ça, ça peut être négatif pour la population. Déjà, le Burundi et la Tanzanie étaient les pays qui ont été réticents dès le début. Donc, il est important que les médias soient suffisamment encouragés et renforcés dans leur rôle pour diffuser vraiment de l'information, devant permettre aux citoyens de prendre connaissance de la nécessité de se vacciner et d'aller se faire vacciner. C'est notre message à l'endroit du gouvernement, parce que ce qui est évident partout au monde actuellement, l'existence de la Covid est une réalité. Il faut aussi noter que la plupart des médias indépendants ont quitté le pays. Donc, il y a quelques organes de presse qui sont sur place et qui n'ont pas vraiment le courage d'aller au fond et de participer activement à la campagne. Il est important que les autorités les encouragent, les renforcent dans leur travail.
Inzamba. Vous suivez toujours la radio Inzamba Agathe Kakawe. Les habitants du quartier Buterere, dont les champs ont été méchamment détruits par les jeunes Imbonerakure sur ordre du chef de quartier, demandent que les auteurs soient poursuivis et punis. Ils réclament également des dédommagements. Selon des sources sur place, l'officier de police judiciaire au niveau local serait réticent dans la résolution de ce problème. Les administratifs à la base, quant à eux, veulent couvrir les Imbonerakure. Plus de détails avec Parfait Moudassiga.
Ce sont les cris de détresse des habitants de Buterere 1 qui venaient d'assister à une destruction méchante des champs et cultures d'environ 1 hectare dans son quartier par des jeunes Imbonerakure sous l'ordre du chef de quartier. Ça fait bientôt une semaine, mais aucune réaction de l'administration et des instances judiciaires dans la répression de ce crime. Celui qui a donné l'ordre de cette destruction, c'est la prénommée Jocelyne, chef de quartier Buterere 1. Les proches de ceux qui y avaient des champs font savoir que la perte est énorme.
Ceux qui disposaient des champs sont au nombre de 11 personnes et cultivent plus d'un hectare. La perte est énorme. Ils ont détruit méchamment les champs des cultures des citoyens sans se soucier de rien. Nestor, chef de cellule, indique avoir reçu l'ordre du chef de quartier prénommé Jocelyne. En complicité avec des jeunes Imbonerakure, ils ont détruit méchamment les champs des citoyens. Pendant la journée, les propriétaires ont assisté impuissamment à cette destruction. Les Imbonerakure n'ont fait qu'exécuter l'ordre donné.
Ceux qui avaient des champs sur ce terrain ont porté plainte à l'officier de police judiciaire à Buterere, mais quand il a convoqué le prénommé Nestor et ses Imbonerakure qui ont détruit leurs champs, le chef de quartier s'intercale et justifie que c'est elle qui a donné l'ordre de ces destructions. Ceux qui avaient des champs crient à l'impunité et à une certaine forme de désorientation pour les intimider et bien consacrer à l'impunité de ce crime commis par des Imbonerakure.
Ils ont été convoqués et le chef de quartier s'est interposé, indiquant qu'ils ont agi sous ses ordres. L'objectif serait de les intimider et les désorienter. Même l'officier de police judiciaire au niveau local aurait joué la complicité en affichant une certaine forme de réticence sur une question qui devrait plutôt attirer son attention. Ceux qui ont commis ce crime ne sont pas inquiétés. C'est le terrain appartenant à la Banque burundaise de commerce et d'investissement. Ce sont les autorités de la banque qui avaient donné l'autorisation à ces citoyens de cultiver ce champ et n'avaient mandaté personne pour la destruction. gestion de ces champs.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzamba à Buterere indiquent que ces citoyens lésés sont allés porter plainte aux officiers de police judiciaire du commissariat municipal de Bujumbura. Ces derniers ont donné des convocations pour ce jeudi et les administratifs au niveau de la zone Buterere ont alors émis à leur tour des convocations pour y répondre aujourd'hui, c'est-à-dire ce mercredi. Ce que les habitants de Buterere qualifient d'entrave aux enquêtes de l'officier de police judiciaire du commissariat municipal. La rédaction de la radio Nzamba a tenté de joindre au téléphone le chef de quartier prénommé Jocelyne, qui aurait donné l'ordre de ces descriptions méchantes, et Serge Hategikimana, chef de zone Buterere, mais sans succès.
Autre lieu, autre grogne, des résidents et propriétaires de parcelles dans le site Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha, commune Muha en mairie de Bujumbura, dénoncent des irrégularités dans la confection des listes où certains ont été associés avec d'autres. Ils craignent que cela ne perturbe l'octroi des documents nécessaires. Ils demandent à l'État de trouver une solution à ce problème. Beni Axelakana nous en dit plus.
Ces habitants résidant dans la localité de Kizingwe Bihara ont répondu au rendez-vous pour qu'on leur montre leur parcelle comme c'était prévu. Cependant, ils ont été surpris de ne pas voir leur nom sur les listes présentées par les représentants de l'association des propriétaires des terrains de Kizingwe Bihara, APTKB en sigle. Ces habitants dénoncent ce qu'ils appellent un manque de transparence dans la confection des listes. Ils affirment que le ministre des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux l'avait pourtant promis lors d'une réunion avec les propriétaires des parcelles le 9 octobre 2021. Pour ces propriétaires de parcelles, la situation est d'autant plus compliquée que certains se sont retrouvés associés avec d'autres personnes dont les parcelles ne dépassent pas 3 ares. Ils ne voient donc pas comment ils vont payer afin d'avoir tous les documents, surtout qu'ils sont obligés de payer en même temps alors que certains ne se connaissent même pas. De plus, ils seront obligés d'attendre que ceux qui ont de grandes propriétés finissent de payer. Ils dénoncent ce qu'ils appellent deux poids deux mesures alors qu'ils sont les résidents prioritaires et devaient être prioritaires. Ils demandent plus de transparence car ces irrégularités paralysent les autres activités comme cela a été le cas ce mardi. Au lieu de continuer les travaux, les représentants de la PTKB n'ont fait qu'écouter les réclamations. Dans une réunion avec les propriétaires des parcelles, le ministre en charge de l'équipement, Deo Nsanganiumwami, avait promis que, au plus tard, 15 septembre 2021, ce travail de l'octroi des parcelles dans le site Kizingwe Bihara serait terminé. Il avait alors réfuté les allégations selon lesquelles certains agents de l'Obura et les membres de la PTKB s'étaient réservés des parcelles. Nous avons tenté de joindre le président et le vice-président de la PTKB sans succès, car leur téléphone portable était éteint.
Et puis, cette brève 125 litres de carburant du type mazout, 25 litres d'essence, 82 bidons et 5 siphons, tels sont les objets saisis ce lundi par la police chez deux hommes à Kayanza. Il s'agit de Youssouf Minani et Jean-Marie Ndiokougayo, tous deux vendeurs à la sauvette de carburant dans les parages de la station dénommée chez Kalfan, située dans la ville de Kayanza. Ce commerce qualifié d'illicite par la police prolifère dans cette ville en cette période où s'observe la pénurie du carburant, mazout et essence confondus. La police appelle tous ceux qui font ce genre de fraude à abandonner cette pratique afin d'éviter des poursuites judiciaires. La même police invite toute personne à dénoncer tous ceux qui exercent ce commerce clandestin du fait que cela porte préjudice à l'économie du pays et peut même provoquer de graves accidents dans les ménages. Et pour clore ce journal, les monopoles de l'État dans le secteur économique sont contre-productifs. Il faut plutôt instaurer une politique qui favorise la concurrence. C'est ce que recommande Faustin Dikoumana, expert économiste. Il intervient suite à la mainmise du gouvernement sur le maïs avec l'annonce du ministère de l'Agriculture ce lundi que les stocks de maïs achetés aux producteurs par le gouvernement dans les communes seront revendus aux citoyens à un prix fixé par l'État avec une taxe communale de 10 francs par kilo. Pour Faustin Dikoumana, il faut laisser le libre choix aux producteurs et aux consommateurs du maïs. Je vous prie de l'écouter.
Dire que tel commerce, telle activité réservée à telle entreprise, ces monopoles, il faut les casser. Les monopoles ne sont pas vraiment une bonne chose si on veut faire assurer la promotion du secteur privé, le développement économique. Il faut casser les monopoles, il faut la concurrence, il faut inviter les opérateurs économiques à faire une concurrence avant que l'État puisse choisir cette tendance à marché public ou quoi, mais il faut qu'il y ait une concurrence pure et parfaite, cela qui garantit le développement du secteur privé. Et encore plus si le citoyen dit qu'il a vendu sur 780 et que l'État va revendre aux commerçants les marges bénéficiaires de l'État, de l'entreprise, de l'État. Les commerçants aussi auront fait ces marges bénéficiaires. Pourquoi les commerçants n'avaient-ils pas acheté cette production à temps? Si le gouvernement propose 680, si les commerçants proposent en deçà, il faut laisser le libre choix dans l'individu, dans le consommateur, dans le vendeur. Vraiment, les monopoles où l'État s'ingère, s'impose, ceci et cela, en économie, c'est toujours contre-productif.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également qui nous suivez pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.